France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Après le Sénat américain, c'est la Chambre des représentants qui appelle Donald Trump à divulguer la plainte du lanceur d'alerte avec son entretien avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour les démocrates, cette plainte déposée par un membre des renseignements américains est une pièce maîtresse dans l'enquête en vue d'une destitution du président. Hier, la retranscription d'une conversation entre les deux chefs d'État, Zelensky et Trump. Cette retranscription a été publiée et elle confirme que Donald Trump a bien demandé à Zelensky d'enquêter sur son potentiel rival à la présidentielle, Joe Biden. Le président ukrainien a affirmé hier soir que ce coup de téléphone était tout à fait normal. Le chef du gouvernement en Libye est en colère et il le fait savoir lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Fayez al-Sarraj dénonce les ingérences des pays étrangers en Libye, notamment les Émirats Arabes Unis, la France et l'Égypte, qu'il accuse de relayer les discours de son adversaire, le maréchal Haftar. L'offensive militaire du maréchal Haftar sur Tripoli dure depuis près de 6 mois maintenant en Libye. En Égypte, le bilan des arrestations des manifestants contre le pouvoir a été une nouvelle fois revu à la hausse. Au total, c'est plus d'un millier de personnes qui a été interpellée ces 6 derniers jours. Elles demandaient à chaque fois le départ du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Un nouvel appel à la mobilisation a été lancé pour retourner dans la rue demain soir, vendredi. Et c'est pour tenter de calmer les colères qu'en France, Emmanuel Macron reprend le micro. Il sera à Rodez, dans l'Aveyron, en fin d'après-midi tout à l'heure, pour donner le coup d'envoi de la concertation citoyenne sur les retraites, aux côtés du ministre en charge de la réforme, Jean-Paul Delevoye. Et face à eux, il y aura 500 Français, avec en marge de cette réunion publique également un rassemblement d'opposants qui est prévu, à l'appel notamment de la CGT, la France Insoumise, la FSU, l'Union des Gilets Jaunes, le PCF, ainsi que Sud. Et puis j'ajoute qu'en ce moment, un important incendie est en cours à Rouen, dans une usine qui fabrique des additifs de lubrifiants. Ici, il s'agit d'un site classé Seveso en raison de matières dangereuses. Il n'y a a priori pas de victimes. Les secours conseillent tout de même d'éviter le secteur.
Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Entendez-vous l'écho, prend la route des vins, tire-bouchon et calculette à la main, nous allons sillonner les vignes de la vallée du Chianti à la Géorgie, à la découverte d'un marché mondial en plein essor. Un marché menacé par le dérèglement climatique et qui suscite aujourd'hui des appétits croissants. Amphore, tonneau ou bouteille, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait la richesse.
Entendez-vous l'écho, du lundi au vendredi à 14h et sur franceculture.fr.
Paris est Paris, voyez-vous.
Lié à jamais par Balzac, un jeune ambitieux à la conquête de Paris, un père ruiné par ses filles, un mystérieux intrigant, les arcanes du pouvoir, le pouvoir de l'argent, le père Goriot sur France Culture.
Nous voulions aller prévenir le père Taillefer, commettre des fautes d'écolier.
Vaste comédie humaine, sacrifiant ceux qui ignorent son jeu cruel. Roman clé dans l'œuvre de Balzac, le père Goriot, le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30, en intégralité sur franceculture.fr.
Il est 6h03 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel tous les jours à la radio tôt le matin de 6h à 6h30 ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou mieux l'abonnement au podcast du réveil culturel disponible entre autres sur l'application Radio France. Tous les jeudis c'est l'actualité musicale mais en ce jeudi 26 septembre on va parler d'un disque qui sort demain et qui nous vient de loin puisqu'il s'agit d'un album inédit de John Coltrane, Blue World. Tel est le titre de ce disque de 37 minutes de bonheur qui sort dans le label légendaire de Coltrane. Pour nous en parler, il nous fallait au moins Francis Marmande, spécialiste de jazz, journaliste au Monde, écrivain et musicien par ailleurs. Bonjour Francis Marmande.
Bonjour Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Jeudi, musique. Thank you.
Laïma, John Coltrane, c'est extrait de cet album inédit qui sort demain, Blue World, et qui sera disponible en CD, en vinyle et sur les plateformes de streaming. Est-ce que ce sont les fonds de tiroir de la maison de disques de John Coltrane et auquel cas, moi j'ai rien contre les fonds de tiroir quand il s'agit de John Coltrane, Francis Marmande.
Je vous comprends, mais il ne peut pas y avoir de fonds de tiroir. Quoi qu'on trouve, ce sera toujours où un inédit et donc une rareté à saisir sur place, ou un objet volant mal identifié, comme celui-ci, qui avait été enregistré à des fins de bande sonore pour un film.
Un film québécois, ouais.
Un film québécois.
Que je n'ai pas vu, mais que vous avez vu, Francis Marmande.
Bien sûr, parce que Le chat dans le sac, en 1966, le film date de 64. Donc j'avais 20 ans et oui, c'est le plus bel âge de la vie. Mais tout ce qui sortait avait des airs d'exception. Je n'étais pas farouchement snob, encore que. Mais enfin, ça m'intéressait, oui, bien sûr. Non, j'avais pas le souvenir que la musique fut de Coltrane. Et je ne sais pas quelle place elle prend exactement. Je me souviens bien des ambiances critique de groove, de tout ce qui naviguait autour de son idée de nouvelle vague en cinéma québécois, de sa proximité déclarée avec Bertolucci.
Alors, on n'a pas vu le film de Gilles Groulx, puisque c'est le nom de ce cinéaste québécois, qui pour son film Le chat dans le sac avait demandé à Coltrane de faire la musique. Finalement, il n'y a eu que 10 minutes de musique de Coltrane dans le film, et tout le reste sort dans ce disque Blue World. Que penser de ce disque, sachant qu'il a été enregistré en 1964, soit 3 ans avant la mort de John Coltrane, mais les dernières années de John Coltrane étaient des années absolument fabuleuses, parce que là, il expérimentait tout. Même si, dans ce disque, il retrouve ses mêmes musiciens, c'est le même quartet, Francis Marmande.
C'est le quartet dit historique, enfin le quartet qui a mis un tout petit peu de temps à se fixer, mais c'est Elvin Jones, extraordinaire dans cette interprétation de Naïma, comme tout au long de la carrière qu'il a faite avec Coltrane. McCoy Tyner, qui est toujours actif, remarquablement, au piano. Et Jimmy Garrison, qui a succédé à quelques autres bassistes. J'ai lu récemment que Reggie Workman, que je tiens en estime supérieur comme contrebassiste, avait abandonné la partie, mais avec beaucoup de fair play. Il était jeune, sans doute, mais il dit ceci, que c'était d'une telle intensité de jouer la musique de Coltrane que lui, tout jeune, il n'y arrivait pas. Et quand on entend Naïma avec son tempo très lent, on est très étonné de cela, mais et c'est Reggie Workman qui parle. J'ai été troublé. L'autre chose, c'est que Elvin Jones, qui était un personnage magnifique, drôle, exubérant, puis quel batteur, mais quel batteur, quel musicien, m'a dit, c'était dans un petit hôtel du 9e arrondissement, dans le lobby où je l'interviewais un an avant sa mort, en 2003, et il m'a dit, mais chaque fois qu'on jouait, on jouait quelque chose de nouveau, et vous savez, même la spiritualité n'empêche pas le sens de l'humour. On s'amusait beaucoup. Il m'est revenu aussi ceci de Elvin Jones. Il racontait qu'en 1962, il y avait un producteur de Baden-Baden, richissime, qui avait engagé le quartet et il payait très très bien. Mais il n'avait qu'une exigence, c'était qu'il fallait jouer tous les matins dans le studio à partir de 7 heures. Et Elvin était explosé de rire en racontant ça, en disant, bon, il y avait ceux qui n'étaient pas couchés, il y avait ceux qui avaient très peu dormi. Et à 7 heures du matin, qu'est-ce qu'on faisait? On jouait le My Favorite Things pendant 50 minutes en boucle pour essayer de se repérer les uns les autres, pour s'entendre, pour... Je le dis parce que la promotion de ce magnifique enregistrement, hein, Blue World, dit que pour une fois exceptionnelle, Coltrane reprend ce qu'il n'a pratiquement, j'aime beaucoup le pratiquement jamais fait, des thèmes qu'il a déjà joués. Non, c'est que ce soit une musique faite aussi par la répétition, la routine, au sens des tap dancers, c'est une figure de... Enfin voilà, tout le monde connaît ça, ça n'est pas grave. Mais le tout, c'est de jouer à fond chaque fois. Eux, ils le faisaient, oui.
Alors, ce disque, Blue World, c'est le deuxième inédit de John Coltrane qui sort en moins de 2 ans. Alors, la première fois, on s'est dit, bon, c'est le 50e anniversaire de sa disparition, c'est son label, Impulse, qui a dû faire le travail qu'il fallait faire pour rendre hommage à John Coltrane et essayer de trouver quelques inédits pour le faire revivre. Là, en l'occurrence, il y a d'autres inédits qui arrivent. Là, on sait que c'est avec cette musique enregistrée pour un film. Est-ce que John Coltrane aurait été d'accord pour que ces morceaux sortent tels qu'ils sortent aujourd'hui?
Est-ce que John Coltrane aurait permis la sortie du précédent, celui qui était authentiquement inédit? Ça n'est pas sûr. Je pense que c'est pour des raisons personnelles. Naïma a été son premier amour. Alice Coltrane vient ensuite. Les bandes de l'album qui a été publié en 2017 étaient propriété de la première épouse de Naïma. Et ensuite, qu'elle n'ait pas voulu, elle, les publier, ça ne me regarde pas.
What's that?
Like Sunny.
Like Sunny, take one.
Thank you.
trouve dans cet album de John Coltrane, cet inédit qui sort demain, Blue World, cette belle version de Like Sonny, Francis Marmande.
Oui, on aime à la retrouver parce que elle figure dans d'autres albums de Coltrane, dont l'un est intitulé Like Sonny. Ce thème figure dans un album réalisé avec un merveilleux musicien. J'ai eu la chance de voir au Sweet Basil en 1981, un an avant sa mort, très prématuré, Ray Draper, très maltraité par le dictionnaire du jazz. C'est dommage. C'était un tubiste, c'était un musicien d'orchestre symphonique, c'était un musicien de composition et de recherche. Et il est venu en 69 en France avec Shep. Et il y a cet album qui a inspiré tous les grands joueurs de tuba, qui parlent d'instruments subalternes, comme Howard Johnson ou Marc Secard en France et Michel Godard. Il y a dans cet album ce thème Like Sonny, qui peut bien être Sonny. Il est probable qu'il s'agit du pianiste Sonny Clark. Le tempo très vif et l'esprit de la composition renvoie à un Coltrane qu'on a bien connu aussi et qui est merveilleux. Alors l'idée que ça puisse être suggéré parfois Sonny Rollins n'est pas impossible, hein, n'est pas bête, mais les relations entre Sonny Rollins et John Coltrane ne sont absolument pas ce qu'un vain peuple a pu désirer de rivalité.
Non, il y avait un respect mutuel, non?
Mais ils se voyaient tout le temps.
Ben oui.
Quand Sonny Rollins jouait Légende sous le pont de Williamsburg pour amplifier son son, tous les musiciens venaient le visiter à la maison en lui disant reviens jouer en ville parce qu'on te réclame. Mais ça va. Et il y avait John Coltrane parmi eux, bien entendu. Et Sonny Rollins a joué lui aussi Like Sonny. Ce qui est émouvant, c'est cette reprise parce qu'on se dit. Cet album, celui qui est inédit pour nous, donc...
Blue World,
se situe entre deux albums clés de Coltrane.
Ah oui, deux chefs-d'œuvre.
Et deux chefs-d'œuvre. Crescent.
Et un Love Supreme.
Et un Love Supreme, tout ça en quelques mois de 1964. Il n'y a qu'une réalisation sur scène de Love Supreme, c'était à Jean Lépin. Le 26 juillet 1965, je ne vous y ai pas vu, cher Toufik.
Qu'est-ce que j'aurais aimé.
Dans les plans de coupe, ce qui est drôle.
Vous y étiez?
Oui.
Quelle chance.
C'est la vie, monsieur. Dans les plans de coupe, ce qui est drôle, c'est une très belle réalisation de Averti.
Francis Marmande, alors, cet inédit de John Coltrane, qui, je le rappelle, sort demain, Blue World, contient donc quelques morceaux classiques, rejoués.
Il y a par exemple dans l'inédit publié, c'est une bonne idée, les deux takes, les deux prises, la prise 1 et la prise 2 de Naïma. C'est intéressant, elles, à quelques secondes près, elles sont différentes. Il y a un léger écart de tempo, il y a un infinitésimal peut-être écart d'état d'esprit. Chaque fois que ce quartet jouait, il se passait autre chose. Je ne peux pas
Mais
le
alors,
dire.
Alors, en définitive, en quoi Blue World est-il différent des autres albums de John Coltrane? C'est quoi le plus?
Ben, c'est une parenthèse, c'est une ponctuation. Il est entre deux chefs-d'œuvre qui vont le devenir, de la spiritualité ardente et de l'ascension. Ça va être un de ses titres et de quelque chose qui apporte une sorte de verticalité mirobolante, mais stratosphérique aussi. Enfin, et au milieu, le quartet existe, le quartet joue, le quartet, il le fait venir pour Rudy Van Gelder, donc il est enregistré dans les mêmes conditions, et il prend le répertoire là où il est. On sent que chacun est allé déjà un tout petit peu plus loin. Vous savez, en 1960, Coltrane se fait siffler à à l'Olympia, par de bons amateurs de jazz, hein, c'est-à-dire des mâles, trentagénaires, cravatés, qui sont très très connaisseurs, mais très connaisseurs. Mais alors lui, il sort tellement de la route ordinaire, comme dirait Chauderlo de Laclos, qu'il lui envoie des piécettes, ils font des cris de singe, en fait, je ne sais pas de quoi on se plaint dans le foot, en fait, très bien. Et à l'entracte, l'organisateur du concert, Frank Thénault, dit à Coltrane, ils sont très amis, et John, tu sais, ne te formalise pas, le public français a toujours un peu de retard, il aime les habitudes, etc. Et Coltrane, le ténor à la main, et ça, des photos, le regarde fixement, et au bout d'un moment, il lui dit, écoute, Frank, ne te fatigue pas, je sais pourquoi il me siffle. Frank Thénault est scié. Il me siffle parce que je ne vais pas encore assez loin.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Un autre extrait de cet inédit de Coltrane, Village Blues. Nous sommes avec Francis Marmande. Est-ce qu'on aura d'autres inédits de Coltrane? Parce qu'on suppose que pour chaque morceau, Coltrane a dû enregistrer plusieurs prises, plusieurs versions, sans compter les versions en public.
Bien sûr. Je ne peux pas lui en vouloir, hein, mais il y a une sorte de public qui est à la fois ligoté par le fétichisme, le marketing, la naïveté, la puérilité, et qui attend du Coltrane à l'infini, à l'infini. Je suis désolé, il faut se rendre à sa mort. Mais, tout de même, je lis des choses étranges. Des musiciens témoignent qu'ils ont vu, je reprends un petit peu notre conversation là où elle en était, ils ont vu, dans je ne sais quel club, Coltrane et Rollins ensemble. Et sous la plume d'un critique qui a quand même du jugement, de la culture, ils l'ont pas tous, hein, de la sagacité, de pertinence, etc. On lit ce truc ahurissant, peut-être, mais tant qu'on n'aura pas les preuves, mais on est où, au palais de justice ou quoi, par l'enregistrement ou la vidéo, on n'en sera pas convaincu. On s'en fiche. Au Hafnote, en 60 ou 61, pendant 5 semaines. Coltrane joue avec un pianiste qui s'appelle Thelonious Sphere Monk. 5 semaines. Ça veut dire 3 sets par soir. Et croyez-moi, c'est pas des mini-concerts comme aujourd'hui. C'est des sets de patrons de club. Donc, enfin, qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de la nuit. Eh ben, il n'y a rien. C'est une 20aine de minutes, je crois. La musique enregistrée, aujourd'hui, on a perdu cette notion. On duplique la vie. Les selfies avec je ne sais quoi, avec on enregistre tout ce qu'on fait, on filme tout ce qu'on... Et bon. Mais là, Non, c'est la trace, c'est là. Alors, c'est le fantôme de la musique. L'enregistrement, c'est remarquablement fait. En plus, c'est jamais dans les qualités et les énergies qu'il y a en scène. Enfin, tout le monde vous le dira.
Mais c'est... vous écoutez des disques comme tout le monde, Francis Marmande.
J'écoute la radio. Des disques, j'en ai énormément écouté, énormément. Et oui, ben bien sûr, j'en écoute. Oui, je vais pas ici me disqualifier en public, mais. Et alors, évidemment, vous disant cela, je le regrette immédiatement, parce que dès que je mets soit une archi-nouveauté, soit Bill Evans avec Scott LaFaro et Paul Motion, mais je tombe, évidemment, je tombe. Et c'est plus qu'une trace, c'est plus que le cadavre de la musique, c'est plus qu'un fantôme, je suis d'accord, je suis d'accord.
Alors, autre événement jazz et surtout autre archive qui a été retrouvée ces derniers jours, c'est bien sûr ce petit film de Miles Davis filmé par Jean-Christophe Averty que Lina a déniché et a mis sur son site. Vous avez vu bien sûr ce moment, ce document, Francis Marmande.
C'est absolument insensé. Ça,
de beauté, vous voulez dire.
De beauté. Oui. On peut le voir facilement sur... Alors, voyez que je suis pour les moyens modernes.
Oui.
C'est extraordinaire. Le début, c'est un thème de Jackie McLean, que Coltrane et Ray Draper jouent aussi. Le début, c'est Hurtreger au piano, quelques accords, parfait. Barney est au premier plan, Barney Whelan. Et Barney a 20 ans, il est beau comme un dieu, il est de profil, saxophone ténor, il aligne un chorus, 32 mesures comme il faut, 4-4 avec René Hurtreger, le tout Averty a inventé un paysage de lune, on voit la Terre, planète dans le ciel, et loin, mais tout groupé, tout serré, Miles Davis, superbement habillé, c'était un des hommes les plus élégants de son époque. Nous sommes le septembre 1957. Pierre Michelot, quelle merveille de bassiste, très connu aux États-Unis aussi, tous les trois. Et là, au centre, pas un geste de trop, une batterie extraordinairement réduite, un sourire éclatant, Kenny Clarke, révolutionnaire du bebop avec Charlie Burt Parker et Dizzy Gillespie. Faut voir ça.
Toutes les informations sur Blue World, l'album de John Coltrane, l'inédit de John Coltrane qui sort demain, et le lien qui permet à ceux qui n'ont pas vu ce petit document exceptionnel, ce petit film tourné par Jean-Christophe Averty avec Miles Davis en 1957, sont bien sûr disponibles à la page de l'émission Le Réveil Culturel sur franceculture.fr. Un dernier mot, Francis Marmande.
En 1957, il y avait une seule chaîne à Bayonne, Basse-Pyrénées. On ne la recevait pas parce que les montagnes.
Ouais.
Et c'était programmé le soir du 25 décembre 1957. Quelle époque!
Merci d'être passé ce matin, Francis Marmande.
Merci à vous, Toufi Kakane.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Le groupe des 6 à l'auditorium de Radio France. Du 4 au 12 octobre, Mikko Franck et l'Orchestre Philharmonique de Radio France nous plongent dans l'univers du groupe des 6. Musique claire, insouciante et légère, mélodie franche, Le Bœuf sur le Toit, Pacifique 231, Scaramouche, découvrir ou redécouvrir Arthur Honegger, Darius Milhaud, Germaine Taillefer, Francis Poulenc, Georges Auric et Louis Duret. Réservation maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous.
Le suicide assisté en Italie sera bientôt possible sous certaines conditions. La Cour constitutionnelle du pays a tranché hier soir et nous reviendrons sur cette décision dans cette édition. Nous analyserons également la décision de la justice française. Elle condamne Sandra Müller qui avait initié le mot-clé « balance ton porc » sur les réseaux sociaux. Ces accusations étaient sans fondement, dit le tribunal. Notons ce matin à Rouen par ailleurs un gigantesque incendie dans un site classé Seveso. Pas de victimes actuellement, mais un périmètre de confinement. Et puis vous entendrez le ministre de l'écologie de la Polynésie française. Ses compatriotes, dit-il, ont déjà les pieds dans l'eau à cause du réchauffement climatique. La Cour constitutionnelle en Italie rend donc possible le suicide assisté sous certaines conditions. L'aide au suicide ne sera plus systématiquement condamnée, en tout cas quand la loi sera votée. Mais cette décision de la Cour est déjà historique pour les associations qui demandaient une évolution. Les explications de notre correspondant Bruce de Galzin.
Le suicide assisté n'est plus illégal en Italie sous certaines conditions. C'est une victoire pour les défenseurs de cette cause, comme l'avocate Filomena Gallo, qui a défendu les cas emblématiques depuis des années.
Aujourd'hui, leur témoignage, leur sacrifice donnent une liberté à tous les Italiens qui, s'ils veulent décider de mettre fin à leur propre souffrance avec une injection létale, s'ils ont une maladie incurable, douloureuse, et s'ils sont capables de prendre leurs propres décisions, eh bien ces personnes ne seront plus seules.
Les conditions sont donc strictes, une souffrance intolérable, une maladie irréversible pour un patient qui doit être sous assistance et traitements vitaux et capable de choisir de mourir de manière libre et éclairée. Cette décision de la Cour constitutionnelle doit maintenant franchir un autre pas, celui de la loi. Les parlementaires sont mis devant leurs responsabilités car la Cour leur demande de légiférer. Déjà, les opposants se font entendre. Matteo Salvini a dénoncé un suicide d'État. Les catholiques sont appelés à se mobiliser pour une bataille devant le Parlement.
Autre débat de société qui agite les politiques et l'opinion en France cette fois. Le projet de loi bioéthique est en discussion dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale depuis mardi et les députés sont entrés dans le vif du sujet hier soir. Des voix se sont élevées, principalement à droite et à l'extrême droite, pour dénoncer ce qu'elles appellent une procréation médicalement assistée sans père, ce que réfute le gouvernement. Il va débattre avec 500 Français. Emmanuel Macron est attendu en début de soirée dans l'Aveyron à Rodez pour évoquer la réforme des retraites. Le chef de l'État retrouve ainsi l'ambiance du grand débat qu'il avait mené en début d'année pour répondre au mouvement des Gilets jaunes. 3 heures de questions-réponses ce soir qui pourraient prendre plus de temps que prévu pour tenter de calmer la colère ambiante face à la réforme des retraites. Venons-en maintenant à cette décision de justice. La journaliste Sandra Müller, à l'origine du hashtag, du mot-clé « balance ton porc » il y a 2 ans, a été condamnée hier par le tribunal correctionnel à payer 20 000 euros d'amende de dommages et intérêts et de frais de justice à son ancien patron de la chaîne Equidia. Elle avait en fait nommé Éric Brion dans un de ses tweets, évoquant du harcèlement sexuel. Accusation sans fondement selon le tribunal lors de Beaulieu.
Les juges ont en effet considéré qu'il n'y avait pas de répétition et donc pas de harcèlement. Ils ont aussi reconnu le préjudice de réputation, car sous le couvert de la liberté de s'exprimer pouvait se cacher une délation de mauvaise foi. Pour Francis Piner, qui défend Sandra Müller, ce jugement est rétrograde.
Si vous mettez des entraves à la liberté de parole, eh bien évidemment, c'est une régression. Et donc je considère que ce verdict aujourd'hui est une régression vers ce mouvement formidable qui s'est développé, mais qui, malgré cette décision, ne s'arrêtera pas.
Éric Brion s'est dit soulagé. La justice des réseaux sociaux, dit-il, a été très violente. Pour son avocate, Marie Burguburu, cette décision permettra de rétablir la justice dans la jungle des réseaux sociaux.
C'est une première décision, mais à mon avis, ce n'est pas la dernière. Le nom du mouvement parle de lui-même, balance ton porc. C'est un appel à la délation par l'insulte ou par l'injure. On est très loin du mouvement de MeToo ou du mouvement de libération de la parole de la femme.
Le tweet de Sandra Müller va être retiré du fil de la journaliste et la question sera une nouvelle fois posée devant la cour d'appel.
Je vous le disais lors du sommaire de ce journal, un important et impressionnant incendie s'est déclaré cette nuit sur un site classé Seveso à Rouen. Il s'agit d'une usine qui fabrique des additifs pour lubrifiants. La préfecture vient de décider un confinement de la population dans un périmètre de 500 mètres autour de l'entreprise. Toutes les écoles de l'agglomération rouennaise seront fermées aujourd'hui. La préfecture indique par ailleurs qu'il n'y a à l'heure actuelle pas de victimes et le préfet précise que les premières analyses ne montrent pas de toxicité aiguë sur les principales molécules de la fumée qui se dégage actuellement de l'usine. Comme un air de déjà-vu, EDF revoit à la hausse son estimation des coûts pour construire l'EPR d'Hinkley Point en Grande-Bretagne. 2 à 3 milliards d'euros de plus. Et comme pour la centrale de Flamanville en France, le délai ne sera pas tenu. Les nuages s'accumulent donc pour le constructeur français qui a vu son titre en bourse chuter de près de 7% hier. Plus que jamais, l'EPR, pourtant présenté comme le fleuron de la technologie nucléaire française, l'EPR voit son image écornée, Anne-Laure Jumet.
Hinkley Point, c'est un chantier pharaonique. 4000 personnes travaillent sur le site qui accueille la plus haute grue au monde. Les deux réacteurs nucléaires de nouvelle génération doivent contribuer à l'objectif du Royaume-Uni d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais ce qui devait être une vitrine du savoir-faire français tourne au fiasco avec une facture qui dérape donc encore de plusieurs milliards d'euros. Pas de quoi donner envie au gouvernement britannique de signer pour 2 autres réacteurs à l'ouest du pays, ce qui est en négociation avec EDF. De quoi porter aussi un coup aux pourparlers en cours avec l'Inde, la Pologne et la République tchèque. Car pour l'instant, l'EPR n'a pas brillé. Seuls 2 réacteurs sont actuellement en service en Chine. Mais en Finlande, où a été lancé le premier chantier du genre, on en est à 10 ans de retard sur le calendrier initial. Idem pour l'EPR de Flamanville en France, avec une mise en service prévue fin 2022 et une addition qui a plus que triplé. Ajoutez à cela les problèmes de soudure et les doutes de l'autorité de sûreté nucléaire qui a placé l'ouvrage sous surveillance renforcée. Bercy a lui commandé un audit dont les conclusions seront rendues fin octobre. De quoi donner des éléments au gouvernement qui doit décider à la mi-2021 s'il autorise ou non la construction en France de nouveaux EPR.
C'est désormais une certitude. Donald Trump a bien demandé au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur Joe Biden, son principal rival démocrate dans la course à la Maison-Blanche. Le département américain de la justice a révélé hier le contenu du dialogue téléphonique, confortant donc un peu plus les démocrates dans leur démarche. Avant-hier, ils avaient enclenché une procédure de destitution à l'encontre du président américain. Cela a peu de chances d'aboutir puisque les républicains restent majoritaires au Sénat et ils devraient soutenir Donald Trump. C'est en tout cas l'analyse que fait Laurence Nardon, elle est responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI.
On est dans un pays extrêmement polarisé et donc je pense que les partisans du président diront pour leur part que tout va très bien, ça n'est pas vraiment condamnable, que c'est une chasse aux sorcières et, comme a dit le président dans un tweet cette nuit, du harcèlement présidentiel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un pays où la réalité est absolument interprétée par les uns et les autres suivant leur inclinaison idéologique. Et donc, je suis pas sûre que cette conversation soit en elle-même suffisamment épouvantable. Elle l'est certainement, mais pas forcément assez pour que les républicains qui suivent le président depuis 3 ans maintenant changent de camp.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Le président israélien Reuven Rivlin a chargé Benjamin Netanyahou de former un nouveau gouvernement de coalition en Israël. Les discussions avec les centristes du parti bleu-blanc de Benny Gantz avaient échoué à 8 jours des législatives, 8 jours après les législatives. Nous rejoindrons notre correspondante en Israël lors du journal de 7h tout à l'heure sur France Culture. Les océans et les zones gelées dépérissent à grande vitesse à cause du réchauffement climatique. Voici le constat alarmant du rapport du GIEC rendu public hier. Glaciers bientôt invisibles, montée du niveau des océans, petites îles menacées de submersion, les impacts seront dévastateurs et commencent d'ailleurs déjà à l'être. Hier à Paris, le ministre de l'écologie de la Polynésie française était au ministère de la Transition écologique. Eremoana Mamatua Atupu, c'est son nom, refuse de voir si son archipel sera englouti par les océans. Il agit donc et il demande aux autres pays d'en faire de même.
On n'est pas les principaux contributeurs des gaz à effet de serre, mais on est peut-être déjà les premières victimes des conséquences du changement climatique. Mais on ne veut pas juste être victime, on veut être aussi leader pour le changement climatique. Humainement, ça veut dire que c'est déjà compliqué à gérer. Vous savez, une île, c'est petit, et la seule chose qu'on voit, c'est l'horizon, c'est la mer. Donc on est très attaché à nos petits bouts de cailloux. Partir, c'est toujours un déchirement pour toutes les populations du Pacifique. Si on n'a pas le choix demain, déjà, comment on fait pour partir de chez nous? Mais où on va? C'est déjà compliqué de sauvegarder ce qu'on a à sauvegarder. Mais si en plus on doit partir, on va où ? Est-ce qu'on vient ici à Paris, pour nous, la Polynésie française ? On va en Calédonie ? Tout ça, ce sont des choses qui, finalement, dont on ne veut même pas parler, parce qu'il faut se battre pour préserver nos îles. Dans le Pacifique, c'est devenu un enjeu vital. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit, encore une fois. Ce n'est pas demain, c'est pas... Voilà. Donc c'est bien de discuter partout, que les grands de ce monde discutent, mais nous, on a déjà les pieds dans l'eau.
C'était le ministre de l'écologie de la Polynésie française, interrogé par Véronique Roberotte. Le ciel restera couvert ce mercredi et pluvieux, sauf sur une large bande du sud de la France. Comptez ce matin 17 degrés à Paris, 18 à Lyon, 23 à Marseille.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Il est 6h40, bonjour Jacques Mounier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Nous sommes effectivement sur France Culture. Pour votre journal des idées, vous revenez Jacques ce matin sur le déclenchement d'une procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump.
Oui, Nancy Pelosi a estimé donc que l'actuel locataire de la Maison Blanche a violé la Constitution en demandant à un dignitaire étranger d'enquêter sur l'un de ses adversaires politiques, l'ancien vice-président Joe Biden. Par ailleurs, candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Selon le Washington Post, qu'il a révélé le 18 septembre, Donald Trump a notamment invité son homologue ukrainien à ouvrir une enquête, vous en parliez dans le journal, Clara, une enquête sur le fils de l'ancien vice-président Hunter Biden, siégeant au conseil d'administration d'une société gazière privée. Après avoir longtemps tergiversé, les démocrates ont estimé que le président n'est pas au-dessus des lois. Selon Gilles Paris dans Le Monde, un autre élément a pu inciter Nancy Pelosi à sauter le pas. La stratégie d'obstruction systématique opposée par Donald Trump aux velléités de contrôle de l'exécutif, pourtant prévues dans la Constitution. Mais le correspondant du quotidien à Washington le souligne, les conséquences politiques du déclenchement de la procédure de destitution restent incertaines. Elle n'a a priori aucune chance de déboucher sur l'éviction de Donald Trump, compte tenu de la majorité que détient le Parti républicain au Sénat. Celui-ci pourrait même tout simplement refuser de l'examiner, cette procédure de destitution, comme explique Julien Perron sur le site de l'hebdomadaire Le Point. Certains juristes estiment que rien n'oblige le Sénat à organiser le procès de Donald Trump. Selon Bob Bauer, un ancien conseiller de Barack Obama qui enseigne le droit à la New York University School of Law, la Constitution confère au Sénat le seul pouvoir de juger un président. C'est en vertu de ce seul pouvoir que le Sénat pourrait refuser de juger un président, même si la Chambre des représentants lui demande de le faire. En cette période, ajoute-t-il, en cette période de mépris pour les institutions et d'érosion des bonnes pratiques institutionnelles, le leader républicain au Sénat pourrait bien décider d'en abroger une de plus. Le Sénat décide également de la manière dont le procès doit se tenir, convoquer ou non des témoins, diffuser en direct les images du procès ou le faire se dérouler à huis clos. Autant dire que l'affaire est loin d'être bouclée. Dans l'histoire des États-Unis, seuls deux présidents en exercice ont été jugés par le Sénat. Andrew Johnson, le successeur d'Abraham Lincoln, et Bill Clinton pour parjure dans l'affaire Monica Lewinsky. Aucun n'a été destitué. Richard Nixon, lui aussi visé par une procédure de destitution, avait démissionné avant son procès. Courrier international relaie les commentaires de la presse américaine. Pour The New Yorker, Nancy Pelosi aurait été un peu vague quant aux prochaines étapes. Plutôt que d'annoncer la formation d'une commission spéciale chargée de poursuivre l'enquête sur la destitution, elle a déclaré que les 6 commissions de la Chambre qui enquêtent actuellement sur l'affaire Trump poursuivraient leur travail sous l'égide de l'enquête de destitution. L'hebdomadaire estime aussi qu'il s'agit d'un pari risqué. Jusqu'à présent, Nancy Pelosi et ses alliés à la Chambre soutenaient que 3 conditions majeures devraient être remplies pour l'ouverture d'une enquête de destitution. Un ensemble de faits faciles à comprendre indiquant que Trump a commis des infractions punissables. Deuxièmement, que la destitution bénéficie d'un large soutien dans le pays. Et enfin, qu'il y ait une chance d'obtenir au moins un certain appui républicain au Sénat qui rendra le verdict final à l'encontre du président. Actuellement, une seule de ces conditions tout au plus est remplie, la première. Le New York Times, quant à lui, estime qu'une procédure de destitution élection pourrait tourner à l'avantage de Donald Trump en lui donnant une dernière chance de consolider son emprise sur le Parti républicain. Et compte tenu du personnage, la procédure aura tout du cirque, la partie de la politique que Trump aime fondamentalement. Cela dit, au plan du spectacle et de la com, il pourrait bien se retrouver ringardisé. Dans Les Inrecuptibles, Alice Pfeiffer signe un article réjouissant sur le style vestimentaire comme arme politique. À l'heure des réseaux sociaux et de l'image instantanée, écrit-elle, les puissants et les opposants se saisissent de codes stylistiques pour activer un discours non-verbal aussi symbolique que photogénique. Et de citer le cas de la jeune représentante de la 14e circonscription de l'État de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, lors de sa prestation de serment, elle apparaît vêtue d'un costume blanc. Les féministes identifient immédiatement le clin d'œil fait aux suffragettes qui arboraient cette même teinte en signe d'honnêteté et de pureté, ainsi qu'à Shirley Chisholm qui reprend ce code vestimentaire lorsque, en 1968, elle devient la première femme noire à assiéger au Congrès. Sur le compte Twitter de la jeune élue, le message est clair, c'est pour honorer les femmes qui ont ouvert la voie avant moi et toutes celles qui me suivront. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de vous écouter, Julie Gacon.
Notre invitée, bonjour Jacques Munier.
Bonjour. Au sommaire des enjeux, aujourd'hui, l'État islamique consolide ses réseaux.
Oui, l'État islamique n'a plus de territoire, mais il n'en est pas mort pour autant. Loin de là, le Pentagone estime à entre 14 000 et 18 000 le nombre de combattants toujours présents, toujours actifs en Syrie. Alors on pense que le commandement du groupe se trouve dans le désert, entre la Syrie et l'Irak, mais c'est dans ses branches extérieurs, ces réseaux, comme vous dites Jacques Munier, que l'État islamique semble mettre aujourd'hui son énergie et ses moyens. Bonjour Mathéo Puxton.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes agrégé d'histoire et spécialiste de la stratégie militaire de Daesh. Depuis 2015, vous étudiez les documents et surtout les vidéos que produit l'État islamique. Alors le calife de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, s'est fait entendre dans un message audio la semaine dernière. En mars déjà, vous aviez dû sans doute étudier cette vidéo, c'est même certain. Il était apparu dans sa première vidéo depuis 5 ans et on le voyait faire semblant de compulser des dossiers. Il disait qu'il s'agissait des rapport d'activité mensuelle des provinces de l'État islamique. Il citait l'Afrique de l'Ouest, la Somalie, l'Afrique centrale, le Caucase. Son dernier message audio, Mathéo Puxton, donne-t-il de nouveaux éléments sur ces branches extérieures de Daesh ?
Alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans le message audio, c'est déjà de relever que c'est le deuxième document de Baghdadi cette année. Or, jusqu'ici, Abou Bakr al-Baghdadi, en général, produisait un document audio par an. Or là, on voit effectivement qu'il y a déjà deux documents. Donc, cette fameuse vidéo du mois d'avril, et puis donc l'audio il y a une dizaine de jours. Donc, ça montre que Baghdadi a sans doute aussi entendu des critiques sur le fait que, à l'intérieur du groupe, certains avaient l'impression que on ne l'entendait pas assez, on ne le voyait pas assez. Alors, même si les critiques avaient été éliminées, puisqu'on n'est évidemment pas dans un groupe démocratique, mais manifestement, le calife, entre guillemets, a entendu les critiques. Alors, effectivement, après, dans l'audio, Baghdadi insiste, en plus du point qui consiste à dire qu'il faut aller libérer donc les femmes qui sont détenues dans les camps de prisonniers en Syrie, notamment, Baghdadi insiste sur le fait que son groupe est capable de mener des actions à l'international, donc ça, c'est très intéressant.
Alors, on va faire des zooms avec vous, des zooms sur certaines branches que vous avez particulièrement étudié. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'État islamique en Afghanistan, par exemple? Il se trouve que les États-Unis ont entamé alors des discussions chaotiques et pour l'instant suspendues avec les talibans, entre autres parce qu'ils considèrent que les talibans sont le seul rempart efficace contre l'État islamique. À quoi ressemble aujourd'hui la branche afghane de Daesh qui, le 17 août dernier, a revendiqué un attentat lors d'un mariage à Kaboul qui a fait 63 morts et 182 blessés?
Alors oui, effectivement, c'est une des branches les plus anciennes, hein, parce qu'elle s'installe dès la fin de l'année 2014, début de l'année 2015. Donc il y a des ralliements en Afghanistan et au Pakistan à côté, donc à l'État islamique, qui va créer donc une province qu'on va appeler la province Khorasan, qui est à cheval entre l'Afghanistan et le Pakistan. Alors c'est une province qui était jusqu'à récemment en fait en difficulté, parce que comme vous l'avez dit, l'année dernière, par exemple, elle a perdu une de ses implantations en Afghanistan, qui était dans le nord du pays, qui a été détruite non pas par le gouvernement afghan et ses alliés, mais par les talibans. Donc cette branche était en difficulté, on la voyait d'ailleurs assez peu dans la propagande durant tout le second semestre de l'année 2018 et jusqu'à ce début d'année. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de commandement. Il y a une délégation qui est venue de Syrie et d'Irak qui montre encore une fois que le commandement central de l'EI en Syrie et en Irak pilote très largement les branches extérieures. Donc cette délégation est venue, elle a changé le chef de la province Khorasan. Et donc depuis, en fait, cette branche est réapparue dans la propagande, elle a fait de nombreux visuels. Comme vous le disiez, elle a multiplié les attaques à Kaboul. Donc tous les ans, il y a une vague d'attaques kamikazes ou autres dans Kaboul qui est orchestrée par l'État islamique. Mais là, on l'a vu documenté en images, avec d'autres opérations aussi qui sont conduites contre les talibans. Et puis ce qui est très intéressant dans cette province aussi d'Afghanistan, c'est que l'EI en a séparé au mois de mai dernier, il en a séparé le Pakistan et l'Inde, c'est-à-dire qu'il a créé en plus de la branche Khorasan qui va rester en Afghanistan, une province Pakistan et une province Inde, ce qui montre cette volonté un petit peu d'étendre justement le combat à d'autres pays.
Voilà, et voilà qui inquiète l'Inde, qui voit sur la carte que la menace que représente l'État islamique ne cesse de s'étendre vers l'Est de sa base originelle qui est l'Irak, et on le trouve aussi au Bangladesh aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, il y a eu une série, alors suite à la vidéo de Baghdadi du mois d'avril, l'État islamique a diffusé entre le mois de juin et le mois d'août une quinzaine de vidéos d'allégeance au calife, entre guillemets, c'est-à-dire des vidéos où à chaque endroit, on voit les combattants de l'État islamique soit renouveler leur serment d'allégeance, soit le faire, et il y en a une justement qui était début août au Bangladesh. Donc c'est la première fois qu'on en voit une où il y a des combattants au Bangladesh qui font allégeance à Abu Bakr al-Baghdadi, et puis donc lui a revendiqué des attaques cette année à Dhaka, donc la capitale du Bangladesh.
Ces terroristes qui prêtent allégeance à Daesh, vous qui avez étudié des documents un peu partout dans le monde, est-ce qu'ils le font toujours dans les mêmes termes et selon les mêmes codes? Est-ce que c'est une sorte de... alors non pas de savoir-faire, mais est-ce que ce sont des codes, oui, qui circulent entre les cellules les plus éloignées?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette série de 15 vidéos dont je parle, en fait, elle est standardisée. C'est exactement le même modèle qu'on retrouve depuis le premier, donc qui est en Afrique occidentale, parce que la première donc a été faite au Nigeria, la province Afrique occidentale de l'EI, jusqu'à la dernière qui était celle de Syrie, donc qui a été diffusée le 20 août. Et à chaque fois, vous avez exactement la même construction. Et c'est là qu'on voit que justement l'appareil central de l'EI, que ce soit donc le commandement, mais même l'appareil médiatique de propagande, est capable en fait de formater les branches locales pour qu'elles produisent des documents qui correspondent à ce que le commandement central attend.
Alors, puisque vous évoquez le Nigeria, cette autre branche de l'État islamique qui a gagné en puissance ces derniers mois, c'est en Afrique de l'Ouest et précisément au Nigeria. Est-ce qu'aujourd'hui on a une idée de si les combattants de l'État islamique au Nigeria sont, qui sont les plus nombreux en effectif? Est-ce que ce sont les anciens de Boko Haram ou les propres recrutements de l'État islamique?
Alors, la branche nigériane, elle est issue de Boko Haram. Hein. C'est-à-dire, je refais rapidement l'historique. Et Boko Haram se rallie à l'État islamique en mars 2015, donc devient cette province que l'État islamique appelle Afrique occidentale. Ce qui se passe en réalité en 2016, c'est que l'État islamique débarque le chef, l'ancien chef de Boko Haram, donc qui était devenu le chef de cette branche-là, qui s'appelle Abu Bakr Shekau. Il est débarqué parce qu'à la fois il est jugé, ce qui peut paraître assez étonnant, trop radical pour l'EI, notamment parce qu'il utilise des femmes et des enfants comme kamikazes pour aller frapper des objectifs civils, et puis aussi parce que il y a un problème de personnalité avec une volonté de contrôle sans forcément obéir aux directives de l'État islamique. Donc en 2016, en fait, l'État islamique en profite pour reformater complètement cette branche, il va en changer la direction, mais surtout, là c'est très intéressant, il va injecter beaucoup d'argent pour reconstruire donc la branche au Nigeria, il va envoyer les Nigérians se former dans sa branche libyenne, hein, puisque lui est présent à ce moment-là aussi en Libye, qui est un peu plus au nord, donc il y a des Nigérians qui vont partir se former dans les camps libyens et qui vont revenir, et puis il y a ce va-et-vient d'ailleurs qui continue jusqu'à aujourd'hui, et le résultat c'est qu'en fait, à partir de 2018, vous avez une branche nigériane qui est extrêmement développée, et qui va commencer en fait à attaquer toutes les bases militaires de l'armée dans l'état du Borno, qui est au nord-est de Nigeria, puisque cette branche, elle opère en fait à la conjonction de la frontière entre le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun. Et donc à partir de début 2018, donc depuis en gros un an et demi, en fait, la branche nigériane essaye de faire le vide dans le quart nord-est du Borno, et d'ailleurs il y est arrivé, puisque actuellement, en fait, l'armée nigériane est en train de se retirer des petites installations. La stratégie de l'armée aujourd'hui, c'est de faire d'énormes installations militaires, parce qu'en fait, elle se dit incapable de tenir, en fait, les petites bases qui sont sans arrêt harcelées par les combattants de l'État islamique.
Et à chaque fois que ces combattants harcèlent, comme vous dites, et attaquent ces petites bases, ils récupèrent aussi les armes de l'armée nigériane, d'où des documents où l'on voit vraiment les combattants de l'État islamique arborer des armes de l'armée régulière. guerre. Ces combattants, pourquoi ont-ils choisi Daesh? Est-ce que c'est parce que, comme vous le dites, l'État islamique donne beaucoup d'argent, fournit des armes aussi, leur donne peut-être une sorte de formation, de manuel, ou ils auraient pu choisir Al-Qaïda aussi? Enfin, est-ce que c'est de l'idéologie? Est-ce que c'est uniquement pour des questions de moyens?
Moi, je pense que ça part, en fait, et contrairement à ce qu'on pourrait effectivement penser, bon, il y a des enjeux locaux au départ, hein, bon, ces groupes, c'était le cas de Boko Haram ou d'autres formations dans d'autres pays. Après, on a vraiment une démarche, et ça, il faut bien se le dire, du commandement central, vraiment de formater ses branches. Alors, dans le cas du Nigeria, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a toute la démarche que je vous ai décrite depuis 2016, ce qui montre que lui, justement, avait préparé sa survie par l'existence de ses branches extérieures. Alors, dans le cas du Nigeria, ce qui est intéressant, c'est que lui a raccroché à cette branche nigériane, par exemple, la branche sahélienne, c'est-à-dire l'État islamique au Grand Sahara, qui est le groupe qui opère au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Et bien, depuis le mois de mai, la propagande de lui, en fait, n'appelle ces deux branches, la nigériane et celle du Sahel, que sous le terme d'Afrique occidentale. C'est-à-dire que pour elle, en fait, les deux branches sont regroupées ensemble. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que la branche sahélienne, l'État islamique au Grand Sahara, n'était pas du tout visible dans la propagande, sans doute pour des problèmes de distance, de communication. Il n'y avait pas de connexion avec l'appareil central de l'UI. Or là, depuis le début de cette année, au moment en fait de la chute de Barkhouz en Syrie, l'État islamique au Grand Sahara non seulement est rattaché à la branche nigériane, mais en plus, on le voit de plus en plus visible dans la propagande. Elle mène des opérations qui sont d'ailleurs calquées sur la branche nigériane. Donc c'est au point en fait où on se demande aujourd'hui s'il n'y a même pas une connexion physique en réalité entre les combattants du Nigeria et ceux de la branche sahélienne, parce que voilà, il y a des modes opératoires, il y a la connexion avec la propagande centrale qui laisse penser qu'il y a peut-être même des cadres ou des instructeurs du Nigeria qui sont venus épauler entre guillemets ceux qui opèrent plus à l'ouest. Voilà, donc c'est très inquiétant.
Mado Puxton, en 10 secondes, est-ce que l'État islamique est en train de changer de stratégie et de revenir à la stratégie qui était celle d'Al-Qaïda à la base, et stratégie sur laquelle ils se sont séparés, disputés il y a quelques années, c'est-à-dire opérer un djihad global avant d'instaurer un califat?
Oui, alors il y a cette stratégie-là. Il ne faut pas oublier aussi, parce qu'on le voit très bien par exemple en Syrie et en Irak, qu'il y a la volonté d'attendre. C'est-à-dire en Syrie et en Irak, on est dans une posture insurrectionnelle, et en fait l'UI attend le moment favorable, attend de voir si le gouvernement irakien, par exemple, ne fait pas assez de choses pour les sunnites irakiens et s'il pourra à nouveau recruter et peut-être un jour effectivement reconstituer le califat, entre guillemets.
Merci beaucoup, Mathieu Puxton, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Secret, temps 2, de Joanne Le Guilherme. Dans cette pièce majeure du cirque contemporain, Joanne Le Guilherme échafaude ses sculptures avec concentration et malice et les met au défi du mouvement perpétuel. De ces duels entre l'homme et l'objet naissent des tableaux d'une mystérieuse poésie. Secret, temps 2, jusqu'au 20 octobre à l'espace Chapiteau de la Villette à Paris. Un partenariat France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est 6h57. Bonjour Guillaume Herner.
Mais bonjour Julie Gacco, bonjour à toutes et à tous.
Alors attendez, parce qu'il faut que je passe de l'État islamique à Tinder. Donc il faut que j'ai, voilà. Donc pourquoi Tinder se lance-t-il dans les séries,
Guillaume? Mais merci Herner de me poser la question, Julie Gacco. Eh ben oui, Tinder se lance dans les séries. Ça va s'appeler Swipe Night en 4 épisodes. C'est forcément une histoire de catastrophe. De toute façon, en ce moment, il n'y a que des histoires de catastrophe. Swipe Night, si l'on en croit le New York Times qui décrit cette série, est à la fois une mini-série et un jeu d'aventure. Chaque participant va avoir à choisir différentes options. Alors il y a des choix mineurs comme celui d'un disc jockey et des choix plus engageants, quelle vie sauver? Mais en fait on s'en fiche. La vraie question est pourquoi Tinder décide-t-il de lancer une série? Pourquoi une application de rencontre se diversifie-t-elle en se lançant dans la fiction? Alors si vous croyez que c'est uniquement pour investir un nouveau marché, Tinder contre Netflix, un peu comme si Facebook, je sais pas, se lançait dans les crèmes glacées, vous vous trompez. Tinder crée une série pour que les personnes présentes sur le réseau social aient enfin des choses à se dire. Parce que les gens de chez Tinder sont très embêtés. Ils ont analysé les conversations de milliers de jeunes de la génération Z, celle pour qui de toute façon la vie privée n'existe pas. Vous savez, il y a la génération X et la génération Y. Maintenant, les 20 ans, c'est la génération Z. Eh bien, la génération Z a bien du mal à briser la glace. La plupart rament pour dialoguer sur Tinder avec des phrases comme « Alors comme ça, toi aussi tu es signé matchent sur Tinder, ce qui est certes une remarque pertinente, mais cependant cette assertion ne rend pas particulièrement justice à l'humour, à l'esprit ou à la culture des uns et des autres. Comment choisir un partenaire, Julie, même pour un instant, quand on a comme élément pour choisir 3 photos, 2 remarques idiotes et 5 emojis? D'où cette idée de génie de fournir un élément commun dont ces braves gens vont pouvoir parler. La série Tinder, une série dont chaque nouvel épisode sera diffusé le dimanche à 18h, parce que le dimanche à 18h, le célibataire ressemble un peu, je ne sais pas, à Churchill ou Dardanelle, il a tout perdu, il est prêt à se pendre. C'est cela, le souci de l'espace virtuellement infini, à la différence de la machine à café où on peut dauber sur le nouveau DRH, à la différence des années 60 où il n'y avait qu'un feuilleton sur la une, il n'y a plus de monde commun, d'où cette révolution. Avant, on draguait pour aller au cinéma, maintenant on va d'abord au cinéma pour pouvoir draguer.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
France Média, c'est le nom de la holding qui regroupera bientôt France Télévisions, Radio France, France Média Monde. Elina Franck-Riester, le ministre de la Culture, l'a annoncé hier. Avec quel changement, quelle révolution à venir? On en parle aux environs de 7h40 avec Julia Cagé, elle est professeure d'économie à Sciences Po. Et Enguerrand Renaud, il est rédacteur en chef Média et Technologie au Figaro. En attendant, il est 7h sur France Culture.